Mercredi 18 décembre 2019. Chapitre 1. La pluie mêlée de neige tambourinait sur le toit en taux ondulés de la véranda. Je regardais ma montre. 8h50. Distante de seulement quelques pas, la clôture que je venais de réparer se devinait à peine dans la lumière grise de cette matinée de décembre. À côté de moi, ma sœur alluma une cigarette. L'odeur de fumée se mélangea à celle fruitée et écœurante de son parfum.
« Dis, Ethan, pour ce prêt... »
Elle se tut et coula un regard vers moi. Malgré l'heure matinale, elle était déjà maquillée comme si elle allait sortir en boîte. Faux cils alourdis de mascara, eyeliner, paillettes. Seuls ses cheveux châtains, de la même teinte noisette que les miens, n'avaient subi aucune transformation. Elle les ramena derrière son oreille.
Ce n'est pas une grosse somme, c'est juste...
Mon téléphone se mit à sonner dans ma poche. Je regardais l'écran. Anna Newsham. C'est ma boss, à la criminelle. Excuse-moi, je dois prendre l'appel. Stella recracha sa fumée, l'air outré.
T'es pas en service? Dis...
Je m'éloignai vers le fond de la véranda.
Oui, capitaine?
Ce n'est sans doute pas grand-chose. Comme à son habitude, ma supérieure hiérarchique ne s'encombra ni d'un bonjour ni d'un comment allez-vous.
Un accident bête, une glace qui lui est tombée dessus, ou quelque chose comme ça. Cela nous est arrivé par la patrouille, qui elle-même a été prévenue par le 911. Je sais que vous n'êtes pas en service aujourd'hui, mais tout de même, inspecteur Moreau, allez voir.
Je me retournai vers ma sœur. Elle avait attrapé le marteau que je venais de poser sur la rambarde et un clou qu'elle positionna à l'endroit où la vieille moustiquaire rouillée s'était décrochée de son support. Croisant mon regard, elle me fit un large sourire, prit son élan et tapa sur le clou de toutes ses forces. La moustiquaire trembla sur ses gonds.
« C'était quoi ça ?»
Je fixai ma sœur. Elle me souriait d'un air innocent.
« Pardon, capitaine, je faisais une partie de golf, c'est le joueur d'à côté. » Va falloir que vous l'écourtiez, votre partie. On doit montrer qu'on prend ça au sérieux, mais je n'ai pas envie de déranger mes meilleurs éléments. Deux petits jeunes devraient suffire. Vous et Elena. Passez-la prendre, ce sera mieux. Je ne veux pas qu'on voie deux voitures de flics.
La chef fit une pause. À l'autre bout de la ligne, j'entendis le ronronnement d'une machine à café et le craquement que fait un gobelet en plastique lorsqu'on le serre un peu trop fort.
Votre but, c'est d'être présent tout en restant discret, c'est clair?
Cela ne l'était pas, mais elle ne me laissa pas le temps de parler.
Je vous envoie l'adresse par texto. C'est dans Georgetown, évidemment.
Je l'entendis pianoter sur les touches de son téléphone et profiter d'un instant de silence pour poser une question.
Qui est la victime? Charity Quinn. Une avocate qui...
Je sais qui c'est.
Contente de savoir que vous lisez la presse. Vous êtes donc au courant pour le procès Davis. L'avocate a apparemment reçu des lettres de menace. Entre nous, ça ne signifie rien. Vous savez ce qu'on dit. Si vous n'avez pas encore reçu de menace de mort, c'est que vous n'êtes pas encore célèbre. Et Charity Quinn l'est, pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons. Je vous en laisse juge. Pour autant, ce genre de menace débouche rarement sur une action. C'est plutôt l'échappatoire des ratés. Vous aimez Shakespeare ?
La question était tellement étrange, je crus avoir mal entendu.
Pourquoi ? Vous verrez. Faites un tour rapide, discutez avec le technicien de la scène de crime, je vous envoie Charlie Weasel, et venez me faire votre rapport. La victime est vivante, bien qu'amochée. S'il y a des choses que nous devons savoir, elle nous les dira. Capito ?
Elle raccrocha sans attendre ma réponse. Je me tournai vers ma sœur.
Il faut que j'y aille.
Mais Madame Hillman a dit qu'elle ferait du café avec des donuts pour te remercier.
Tu m'excuseras auprès d'elle. Et dis-lui que si les voyous qui ont défoncé sa clôture reviennent, elle doit me rappeler.
Stella hocha la tête et resserra sa doudoune rouge autour de sa taille arrondie. Je plantai un bisou sur son front.
Sois sage.
Ma voiture était garée devant le portail. Je descendis les marches branlantes du perron et m'engageais dans le chemin envahi de mauvaises herbes lorsque j'entendis sa voix dans mon dos.
« Au fait, j'ai un cadeau pour toi. pour ton embauche à la criminelle. Je suis désolé, je voulais te le donner plus tôt.
Je rebroussai chemin. Elle avait sorti un paquet de sa poche et le brandissait fièrement. Le cadeau était enveloppé dans un papier jaune brillant, de la couleur des banderoles de police servant à protéger les scènes de crime. J'ouvris le paquet.
« C'est une cravate, » dit ma sœur.
Je souris. « Je vois. Merci. Tu peux me la nouer ?»«
J'ai pas trop l'habitude. »
Elle gloussa. Je sentis ses doigts malhabiles passer la bande de tissu derrière mon cou.
Je me suis dit que les menottes, comme ça, ça faisait classe. Surtout avec ce fond bleu. Il est assorti à tes yeux. Sinon, il y en avait aussi avec des grosses empreintes et avec des cadavres.
Elle fit un pas en arrière et me jeta un coup d'œil inquiet.
Tu crois que c'est bien comme ça? Ça tient pas trop, là, le nœud. C'est peut-être dans l'autre sens.
C'est parfait, Sis. Vraiment. Je souris encore. Je vais y réfléchir pour le prêt, d'accord? Si tu penses réellement qu'un fiche spa est une bonne idée.
Son visage s'illumina. Ce sera pas comme la dernière fois, je te le garantis.
Lorsque je me retournai après avoir atteint le portail, elle se tenait toujours sous la véranda à côté de la boîte à outils. Dans sa doudoune rouge, elle ressemblait à un petit lutin du Père Noël qui aurait perdu son chemin. Chapitre 2. Je n'avais pas souvent l'occasion d'aller à Wesley Heights et ne me rappelais du quartier que l'impression générale d'opulence qui s'en dégageait. C'était pour moi un lieu où les demeures de maîtres étaient entourées de chênes centenaires, où des massifs soigneusement taillés bordaient des pelouses manucurées. Un quartier où l'on vivait entre soi, bien à l'abri de la pollution de Washington, mais tout de même proche de son centre névralgique qui concentrait argent et pouvoir. L'adresse d'Elena, 4636 Hawthorne Lane, ne me disait rien. Je la rentrai dans le GPS. Une fois n'est pas coutume, le trafic était fluide, et bientôt je laissai derrière moi les petites maisons qui bordaient Sheriff Road, tournées à gauche dans Minnesota Avenue, passées sous les voies du métro aérien, marquant la séparation d'avec le quartier de Mayfair, puis m'engager sur la bretelle d'accès de la Kenilworth Avenue Freeway. Tout en conduisant, je repensais à l'appel de ma chef. Un accident bête, avait-elle dit. Elle devait y croire. Sinon, elle n'aurait jamais mis sur l'affaire ses deux recrues les plus récentes, les plus inexpérimentées. Je profitai d'un ralentissement sur Canal Road pour enlever ma cravate et la fourrer dans la poche de ma parka. Ensuite, je jetai un regard critique sur le reste de ma tenue. J'avais prévu de passer à la banque après avoir réparé la clôture de Madame Hillman et je portais un costume avec une chemise bleu clair ainsi que des chaussures de ville. J'étais rasé, mes mains étaient sales, mais je les frottais avec un mouchoir en papier. Puis, à l'occasion d'un feu rouge, je me penchai vers la boîte à gants et en sortis mon holster. On klaxonna derrière moi. Lorsque je me redressai, le petit vieux volant du pick-up Ford arrêté sur la file d'à côté me fixait avec des yeux exorbités. Je lui fis un signe de la main et redémarrai. 30 minutes après avoir reçu l'appel, je m'engageai dans Hawthorne Lane et me garai devant la maison d'Elena. Bien que la grisaille de cette matinée de décembre ne le justifiât guère, je chaussai mes lunettes de soleil et sortis de la voiture. Comme je m'y attendais, ma nouvelle coéquipière habitait le 3 pièces cuisine traditionnel des quartiers huppés de Washington. Construite en briques rouges au début du siècle dernier, la demeure offrait des colonnes blanches en façade et un chemin d'accès en gravier bordé par des buis taillés au cordeau. Une couronne de Noël verte, rouge et or ornait la porte d'entrée. J'étais sûr qu'il y avait aussi un labrador quelque part. Il suffisait de siffler. Bien que ce ne fût pas la plus belle des maisons de la rue, j'estimais sa valeur à près de 4 millions de dollars. Après tout, 6 des 10 comtés les plus riches d'Amérique se trouvaient dans la banlieue de Washington, D.C., et les prix de l'immobilier battaient ici des records. Je tentai d'imaginer la tête des parents de ma coéquipière lorsqu'elle leur avait annoncé qu'après de brillantes études de droit à Harvard, elle avait décidé de devenir policière, mais je n'y parvins pas.